Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Sans doute serez-vous tombé dans le rayon spiritueux de votre supermarché sur des bouteilles de vin étiquetées « agriculture biodynamique ». Peut-être vous êtes-vous dit que ce vin était bio, voire plus bio que bio. La mention « agriculture biodynamique » cache bien son jeu et n'est pas forcément compatible avec la foi catholique. Nous le découvrons dans cette émission. L'encyclique Laudato Si en 2015, suivie en 2023 de l'exhortation apostolique Laudate Deum, publiée toutes deux par le pape François, établissent un lien évident entre la question écologique et la dimension religieuse. L'agriculture biologique répond aux grands enjeux de respect de la maison commune, expression propre au Saint-Père. Faut-il pour autant tout mettre dans le même sac, l'agriculture biologique et l'agriculture biodynamique ? Pour nous apporter des clés de discernement, nous sommes en duplex depuis RCF Jéricho-Moselle, donc à Metz, avec le père Jean-Christophe Thibault du diocèse de Metz et auteur du livre « L'agriculture biodynamique, méthode bio ou pratique occulte ». Bonjour père.
Bonjour.
Également en duplex depuis Radio Présence Figeac, Jean-François et Marie Réveillac, agriculteurs bio dans le Lot. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté d'intervenir sur les ondes de Radio Présence. Alors pour commencer cette émission, on va quand même commencer par définir ce qu'est la biodynamie. Sur le site de Déméter, vous savez, il y a deux labels de l'agriculture biodynamique, il y a Déméter et Biodivin. On trouve cette définition. La biodynamie est un système de production inspiré par l'anthroposophie et dont le maître à penser est le célèbre Rudolf Steiner. Ce dernier a donné 8 conférences aux agriculteurs en 1924. Alors, il n'est pas forcément célèbre pour tout le monde et justement, on a besoin de vous, père Jean-Christophe Thibault, pour nous expliquer sur quoi repose l'enseignement de ce philosophe et agronome autrichien.
Alors, effectivement, c'est très important de pouvoir parler de Rudolf Steiner pour bien comprendre ce qu'est l'agriculture biodynamique. Alors justement, vous avez employé deux mots pour le définir, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Il n'est ni philosophe et encore moins un agronome. Il n'a d'ailleurs jamais... Dans sa jeunesse, il a fait un peu de jardinage, mais pas plus.
C'est pourtant comme ça qu'il est présenté.
Et voilà. Ouais. Et vous touchez du doigt déjà un des premiers problèmes de l'agriculture biodynamique, c'est que, en général, même le personnage même de Rudolf Steiner est un peu mis de côté. Enfin, en tout cas, il n'est pas mis en avant parce qu'il est difficile à définir et aussi parce qu'il est controversé. Mmh. S'il fallait le définir, si on veut vraiment mettre une étiquette, si je puis dire, sur qui est Rudolf Steiner, c'est d'abord un ésotériste occultiste. Alors, il faut encore préciser ce qu'on met derrière. L'ésotérisme, c'est un mot du 19e siècle qui définit tout un courant de pensée qui a toujours existé en parallèle du christianisme, mais qui repose, qui n'est pas à proprement religieux, si vous voulez. On est entre les croyances, la philosophie, vous voyez. Et ce courant de pensée qui remonte, dont les racines les plus anciennes remontent à l'Antiquité, c'est développé, codifié, on pourrait dire, à partir de la Renaissance. Et donc, les racines, si vous voulez, c'est des racines qui sont essentiellement, qui viennent essentiellement du stoïcisme, mais aussi de la pensée hermétique. Alors, l'hermétisme, c'est à la fois un mélange des croyances indiennes, les croyances également de l'Égypte, et avec du néoplatonisme. Alors, voyez, je ne vais pas développer tout ça. On n'aurait pas le temps. Il y a tout un courant de pensée, mais qui ne s'origine pas du tout dans la révélation judéo-chrétienne. Oui. On est dans une autre vision du monde. Alors, Rudolf Steiner, pour revenir à lui, est quelqu'un qui est né en 1861. Il est né à la frontière austro-hongroise, de famille catholique. Mais pour prendre des termes un peu modernes, des catholiques non pratiquants, si je puis dire. Mmh. Vous voyez, donc pas un développement très grand de la foi chrétienne. Son père était chef de gare, ce qui fait qu'il a déménagé pas mal. Et il se trouve que dans son histoire, et pour bien le comprendre, il y a eu un petit événement qui pourrait presque sembler anecdotique, mais qui finalement est fort important, c'est qu'à l'âge de 7 ans, il a fait une expérience mystique intérieure, pour, je reprends ces termes, très concrètement, il a vu un fantôme. Il a vu une femme qui venait de se suicider, etc. Et donc, il a fait cette expérience de l'existence d'un monde invisible. Hein? Alors, le monde invisible, ça, c'est un terme chrétien. Hein? Vous avez bien compris, vous voyez qu'il y a un monde, voilà, et que tout le monde ne le voyait pas. Donc, que l'homme avait en lui-même des capacités de clairvoyance, on va dire, et qui permet d'entrer en contact avec le monde des esprits. Et tout part de là. Hein, toute son histoire, finalement, s'origine, trouve son origine dans cette expérience. Après, pour aller très très rapidement, à très grandes enjambées, c'est quelqu'un qui, quand il était au collège, quand il était jeune homme, la philosophie qui était le plus développée à son époque, parce qu'il était très intéressé par tous les aspects philosophiques, c'était Kant.
Oui.
Or, Kant, là encore, je ne vais pas trop développer, mais lui, en gros, il dit qu'on n'a pas de tellement de moyens d'accéder à la vérité, enfin, que c'est très limité. Et lui, ça le perturbait parce qu'il est persuadé que l'homme, par la raison, mais aussi par la science, peut se mettre en contact avec un monde invisible.
Oui.
C'est sa grande idée et c'est ça qu'il va développer après, par la suite, dans toute son existence.
Et le lien avec, avec cette écologie ?
Oui, j'y viens.
Oui, pardon.
ça va venir, je vais essayer d'aller très vite. Je veux dire, le rapport avec l'écologie qui est très tardif chez lui, hein, qui est très tardif, mais il passe d'abord par l'expérience qu'il avait faite. Il avait travaillé pour une association, on va dire, hein, les archives de Goethe. Et Goethe est un personnage très important, lui-même très inspiré de tout ce qui est ce qu'on appelle la nature-philosophie. Qui imagine que finalement, il n'y a pas vraiment de Dieu créateur, il y a un principe premier qui s'est développé, qui s'est multiplié en différentes formes, et que donc tout est en correspondance, le microcosme, le macrocosme. Hein, par exemple, Steiner dira finalement, le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est un macro-anthrope. C'est-à-dire, vous prenez l'homme, bah, l'homme porte en lui-même un peu un reflet de tout ce qu'est la nature, mais aussi tout le cosmos, vous voyez, tout est lié, tout est en correspondance. C'est la grande idée de l'ésotérisme. Hein.
Oui.
Et donc, dans la nature-philosophie, c'est là où je voulais en venir, Goethe développe, alors il avait, alors Goethe n'est pas simple, nous on le connaît surtout comme le poète romantique,
oui.
Mais il était le poète, hein. Mais il n'était pas que cela, il était aussi philosophe, il était développant toute une pensée, voilà, il était même homme politique, hein. Vous savez, à l'époque, tout était lié. Et lui, il était surtout à la recherche de l'archétype. Et il part des plantes en disant, si je suis capable de dire, ça, c'est une plante, comment je le sais ? C'est qu'intuitivement, dit Goethe, il existe une plante primaire, une plante première, dont tous les autres, finalement, émanent. Et donc, c'est à la fois une plante qui existe vraiment, qu'il faut trouver, l'archétype de la plante, mais qui est aussi un principe philosophique. Alors ça va beaucoup, beaucoup marquer Steiner, qui va développer un peu toute cette pensée, en sachant que l'aspect religieux chrétien avait été abandonné par Goethe.
Oui.
Hein. Voilà. Enfin, il était luthérien, il avait abandonné cette foi luthérienne. Là, je parle bien de Goethe. Hein.
Mm-hmm.
Alors, pour revenir à Steiner, autre élément important, puis on y arrive, hein, vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié, mais c'est nécessaire pour comprendre,
oui,
le, si vous voulez,
sa pensée.
Et après, les choses en découlent, si vous voulez. Il a été repéré par une petite société, une société spirituelle, on pourrait dire, qui s'apparente aussi à l'ésotérisme, qui s'appelle la Société Théosophie. Et la Société Théosophie, qui est tout à fait incontournable dans le monde de l'ésotérisme, a été fondée par une certaine Madame Elena Blavatsky, donc à New York. Alors c'est dans, à la fois, elle était partie du spiritisme, du mouvement des spirites, et puis elle voulait entrer en franc-maçonnerie, mais comme elle était femme, c'était un peu compliqué. Donc elle a fondé Ça passait pas. Et donc, elle a fondé une société. Alors, c'est très difficile de mettre des termes là-dessus. Oui. On va dire une société spirituelle, ésotérique, dont le but est de permettre de faire un grand syncrétisme entre toutes les religions du monde. Et c'est de trouver tous les points communs qui existent entre les religions orientales et les religions occidentales pour retrouver l'idée d'une religion première. Alors, vous voyez, on retrouve encore toujours, il y a un archétype, et puis après, voilà. Dans toutes les religions qui existent sur Terre sont finalement des reflets d'une religion première, et chacun aurait pris un petit bout, si vous voulez, de cette religion première. Globalement, tout son travail syncrétique avait pour but de fonder une religion qui englobe toutes les religions. Et c'est dans cette société que Steiner va rentrer et va découvrir d'autres aspects qu'il n'avait pas encore, développés. Et c'est là aussi qu'il va découvrir toute la dimension chrétienne. Alors là, je mets tout de suite des guillemets. Parce que pour eux, il ne s'agit pas d'une pensée comme nous on l'entend, qui est considérée, si vous voulez, dans l'ésotérisme. La religion chrétienne, catholique, protestante, sont considérés comme des religions exotériques, c'est-à-dire n'ayant qu'une partie de la vérité. Mais il y a une dimension ésotérique de la religion chrétienne où le Christ, finalement, est d'abord quelqu'un qui a une connaissance particulière qu'il réserve à certains initiés. Donc, vous voyez, on est dans une... C'est pour ça que les termes sont très piégés, parce que finalement, bien sûr, on parle du Christ, bien sûr,
mais pas en tant que fils de
Christ,
Dieu.
Parle-t-on? Oui. Voilà. Ah non, loin de là.
Loin de
là. C'est plutôt, vous voyez, considéré comme quelqu'un, alors on pourra développer peut-être dans l'anthroposophie ce que lui en a fait, mais en gros, il en a fait le chef des archanges d'abord, puis après comme un guide particulier, bon, peu importe. Et à partir de là, il se trouve que la société théosophie, il va être responsable en Allemagne, il va mettre ses idées aussi dans un journal qu'il va fonder, qui s'appelle Lucifer. Lucifer Gnosis, deux journaux.
Alors, ça, c'est clair,
vous allez dire, oh là, qu'est-ce que ça veut dire, Lucifer? Qu'est-ce que ça veut dire? Attention, nous sommes dans un contexte d'ésotérisme. Oui. Lucifer n'est pas le diable. C'est un personnage qui a la connaissance, c'est le porteur de lumière. Hein. Vous savez, Lucifer, c'est-à-dire celui qui a la connaissance. Le gnostique par excellence, si vous voyez. C'est parce que dans cette pensée ésotérique, nous sommes sauvés par la connaissance. Le péché originel, c'est le fait que l'âme soit tombée dans la matière. Et donc, c'est par la connaissance que l'on revient à la connaissance première, en étant libéré de la matière. Vous voyez un petit peu tout ça.
Oui.
Alors, ça va avoir de l'importance pour ce qui arrive. Donc, il se trouve que la société théosophie, celle qui va succéder à Mme Blavatsky, s'appelle Annie Besant, et elle va développer l'aspect oriental, au point qu'elle va affirmer un jour qu'il y a un nouveau Christ. Le Christ s'est réincarné, c'est le retour du Christ, mais vu d'une autre manière, dans un jeune Indien qui s'appelle Krishnamurti. Bon. Et là, il va y avoir une rupture de Steiner et de ses adeptes, on pourrait dire, où ils vont fonder l'anthroposophie pour rester plus proche de la pensée occidentale et développer le côté, entre guillemets, chrétien. Hein. Mais je vous ai dit, attention, ce n'est pas tel qu'on l'entend, puisque le Christ dit qu'il vient de l'époque solaire, etc. Bon, ce n'est pas du tout le Christ tel que nous, on l'entend. Hein. Alors, c'est là où maintenant on arrive à la dernière époque de sa vie. Et c'est pour ça qu'on parle et qu'il est célèbre, Rudolf Steiner, par rapport à d'autres de ses contemporains ésotéristes, pourquoi lui a laissé des traces? C'est parce qu'il a eu cette idée en disant « Il faut pouvoir apporter des choses concrètes à ce monde. Il ne faut pas que l'ésotérisme reste au niveau des idées.
Oui, de la pensée.
Il faut que ça s'incarne. » D'autant plus que ce qui est commun à toute cette pensée ésotérique, etc., très fondée sur l'idée de cycle de réincarnation. D'ailleurs, la réincarnation est un concept clé. Mais tout se réincarne, pas forcément les êtres humains, mais même
les plantes aussi, alors
la planète. Alors les plantes, etc. Mais aussi les grandes planètes. Alors on est passé, lui, il dit, voilà, la Terre n'est que le produit d'une réincarnation. Alors lui, il dit, il y a d'abord eu Saturne, c'est là où tout ce qui est minéral s'est mis en place. Puis après, il y a eu le stade Soleil. Puis après, avec différentes incarnations, qui s'est réincarné en lune, Après, il y a toujours des restes hein, de tout ça, mais pour lui, c'est que des restes. Il y a la Terre et encore trois grandes réincarnations. Ça finit par Mars, si mes souvenirs sont bons. Alors, à partir de là, si vous voulez, à l'intérieur même de cette période qui est celle de la Terre, où l'homme s'est mis en place petit à petit, il y a différents... Je vous la fais courte, hein, parce que c'est très compliqué. Il y a sept grandes périodes, hein, donc l'époque lémurienne, l'époque atlante, enfin, je vous passe un peu les détails.
Oui, parce qu'il faut qu'on arrive quand même à donner la parole.
Mais c'est nécessaire que je puisse vous dire ça pour que vous compreniez un peu. Mm. Sinon, on ne comprend pas ce qu'il y a par derrière. Et donc, on arrive à cette période-ci où nous sommes entrés dans une période sombre qu'on appelle le Kali Yuga. Alors, ça reprend toute la pensée astrologique de l'Inde. Et c'est une période où on devient très matérialiste et c'est la période où l'homme est le plus éloigné de son élévation spirituelle. Donc, on est dans une période de décadence. Alors, tout ce qu'il va mettre en place, ce sont des sortes de remèdes. Des remèdes pour sortir de la décadence et permettre de retrouver, si vous voulez,
la reconnexion finalement avec... Oui.
La reconnexion, etc. Ce sont des remèdes, vraiment. D'accord. Des remèdes. Alors, je vais aller très vite parce que je vais surtout parler maintenant de l'agriculture biodynamique. Il va d'abord fonder des écoles, parce qu'il faut donc des écoles Steiner, bien connues. Il va également fonder une médecine anthroposophique, un type avec un laboratoire bien connu, laboratoire Velleda, les produits Velleda.
Oui, qui existe encore.
Il va fonder également des banques, il va fonder des groupes politiques, il va fonder une église, hein, l'église des chrétiens, etc. Enfin, vous voyez,
donc ça, c'est un trust international.
Sa dernière réalisation, c'est un trust international. Et il va avoir d'ailleurs un centre qu'il va fonder, hein, le Gatenum, qui est à Dornach, hein, en Suisse. Et sa dernière réalisation, l'ultime réalisation, c'est la biodynamie. C'est-à-dire sauver la ferme, les plantes, enfin la nature, qui est dans une décadence et qui est marquée par, en particulier, si vous voulez, l'athéisme, le matérialisme, alors sous l'effet conjugué à la fois de deux forces contraires, nécessaires mais contraires, Lucifer et Ahriman. Bon, je ne vous dis pas, ce sont des forces contraires. Hein, et puis après, il a ajouté Sorat. Et donc, en quoi consiste l'agriculture biodynamique ? Eh bien, précisément, à considérer la ferme comme un modèle, si vous voulez, un peu plus grand, si vous voulez, que celui de la Terre. Au-dessus de la ferme, il y a également la Terre, et au-dessus de la Terre, il y a l'univers. Et donc, comme le corps tombe malade et qu'il nous faut des médicaments, eh bien, lui, l'agriculture biodynamique propose des remèdes pour sauver la ferme et sauver les plantes, les animaux, de manière à pouvoir, régénérer, et dans le but de préparer le retour du Christ qu'il avait situé au XXe siècle, à peu près.
Oui. Alors, on va voir justement ces moyens. Je voudrais vous demander, Jean-François et Marie Réveillac, puisque vous avez eu recours à l'agriculture biodynamique pour votre exploitation agricole dans le Lot. Est-ce que vous aviez compris tout ça à l'époque, tout ce mécanisme ésotérique ?
Non, absolument pas. Moi, je venais de m'installer agriculteur et nous étions, avec mon épouse, en recherche d'une agriculture, disons, propre.
Saine.
Saine. Nous étions déjà à une époque où on commençait à comprendre les effets délétères des engrais et des produits chimiques. Oui. Moi, dans mon métier avant, j'étais conseiller agricole, j'avais rencontré des agriculteurs en biologie, mais je n'avais pas eu l'occasion de vraiment creuser la question. Mais on n'avait pas envie de rentrer dans cette agriculture conventionnelle qui était en vogue à ce moment-là.
Oui. Donc vous étiez attiré par une culture exempte de tout produit chimique. Vous vouliez limiter, en tout cas, ce que propose cette agriculture biodynamique, l'utilisation de sulfite au moment de la vinification. Bon, ça c'est pour les viticulteurs qui ont un certain nombre ont recours à la biodynamie. Vous aviez aussi peut-être envie d'avoir une j'allais dire une connexion, mais est-ce que vous faisiez un lien entre le moyen de cultiver vos terres et votre foi ?
À ce moment-là, notre foi était un petit peu au ralenti. Et donc, quand on est allé la première fois à une conférence de biodynamie, dans la conférence, et on parlait de Dieu, on parlait de Jésus. Et nous, ça nous a fait tilt. On a dit, tiens, c'est peut-être un moyen de retrouver une foi plus vive, plus forte, plus incarnée, plus... Voilà.
Et une unité.
Et donc, une unité, voilà. Un lien entre notre travail et notre foi. Et on s'est fait piéger, qu'on y a cru. Et donc, on a accroché. Mais je pense qu'en même temps, on a bénéficié, enfin surtout moi, d'une protection pour ne pas rentrer dans l'anthroposophie. Parce que, par exemple, ma maman et la communauté du Verbe de vie et certains amis étaient un peu inquiets de notre manière de faire, et surtout quand je suis partie en formation pour l'école Steiner. Et donc, je pense qu'il y a plein de gens qui ont prié pour nous.
Ah oui.
Et ce qui fait que ça nous a fait une protection, je pense.
Et vous témoignez dans le livre du père Jean-Christophe Thibault, l'agriculture biodynamique, vous témoignez aussi que cette méthode vous a éloigné de vos proches et de vos amis, ça vous a isolé. Donc là aussi, c'était pas forcément bon signe.
Mais oui, c'est ça. C'est ça. Heureusement, on avait rencontré la communauté du Verbe de vie, qui pour moi m'avait donné un bon coup de fouet dans la foi, quoi, qui m'avait restauré dans une foi joyeuse, où on peut vraiment rencontrer Jésus vivant aujourd'hui. Et ça a été vraiment une force pour moi, quoi. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'hermétique entre l'anthroposophie et moi, quoi. Voilà, c'est ça. Oui,
le Seigneur vous a rattrapé.
Voilà.
J'ajouterai aussi qu'à cette époque-là, l'agriculture biologique était très, très peu développée, elle était très marginale. Et quand on se mettait le doigt là-dedans, on était pris pour des rêveurs.
Des illuminés, peut-être.
Des illuminés, voilà. Donc, c'est ça qui nous mettait un peu à l'écart des autres, des agriculteurs.
Ouais. Ouais, non, puis ça prenait quand même beaucoup de temps, hein, de faire la biodynamie. Ça prenait beaucoup de temps et d'énergie. Et du coup, voilà, on était un petit peu recentrés sur notre truc et pas assez ouverts à l'extérieur.
Alors, je vous propose Pardon, Jean-François.
Entre autres, nous avons passé de nombreux week-ends à nous former, parce qu'à cette époque, il n'y avait aucune approche de formation à ce genre d'agriculture.
Alors, on va voir, je vous propose qu'on marque une pause, et puis nous allons voir après cette pause musicale, quels sont les différents moyens que vous avez utilisés pour améliorer la qualité des sols, et puis vous passer justement de produits chimiques. Écoutons le psaume de la création interprété par Grégory Turpin.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très beau, tu es le Dieu.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
L'agriculture biodynamique est-elle cato-compatible? C'est la question posée aux invités de Radio Présence aujourd'hui, Jean-François et Marie Réveillac, agriculteurs dans le Lot aujourd'hui à la retraite, et le père Jean-Christophe Thibault du diocèse de Metz. Nous voyons au début de cette émission quelle était la philosophie, quels étaient les principes sous-jacents à cette biodynamie. Et puis nous voulions voir dans cette deuxième partie les différents moyens qui sont mis en place pour améliorer la qualité des sols, pour utiliser le moins possible d'engrais chimiques. Et vous avez utilisé ce qu'on appelle des préparats. Jean-François et Marie Réveillac, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait?
Il s'agissait de récolter des plantes et les mettre dans des organes animaux qu'on enfouissait dans le sol pendant certaines périodes. Et tout ça, c'était en lien avec les connexions qu'avait développé Steiner entre les planètes du cosmos et la Terre. Et pour nous, c'était pas à l'époque, c'était pas choquant. Tout jardinier aujourd'hui travaille plus avec la Lune.
Exactement.
Pourquoi ne pas travailler? Pourquoi les autres planètes n'auraient pas elles aussi leurs influences sur les plantes et les animaux? Et donc, une fois ces plantes récoltées, alors tout ça se passait en groupe d'agriculteurs. On était entre 15 et 20 à faire ces choses-là ensemble.
Précisons que ces plantes, vous les mettiez dans des crânes de vaches, des vessies de cerf. Enfin, ce n'était pas n'importe quel endroit, quand même.
Voilà, ça avait quelque chose d'un peu... On n'avait pas trop
Certaines plantes étaient dans le crâne de vache, d'autres plantes étaient dans une vessie de cerf, d'autres dans d'autres... On a un peu oublié, hein. Mais voilà, c'était quand même très précis, très particulier. Ouais. Et il fallait mettre tout ça en terre... de telle date à telle date, pour certaines plantes dans un endroit ensoleillé, d'autres plantes c'était plutôt un endroit ombragé, endroit humide ou endroit sec, c'était très précis, très cadré, quoi.
C'est vrai qu'on n'aurait pas osé inviter un technicien de champ d'agriculture à faire ce
genre de rayonné,
de chimie. Oui. Et après c'est préparé à être récolté. Alors, ça faisait des très petites quantités, mais en fait, on les dynamisait dans des quantités d'eau et qu'on allait ensuite répandre avec un pulvérisateur sur nos parcelles.
Est-ce que ça a marché? Est-ce que vous avez eu des bons résultats?
C'est difficile à dire. C'est sûr que quand on met un coup d'azote chimique sur le sol, 15 jours après, le résultat est visible. Alors que ça, c'est de l'effet à très long terme. Et c'était un peu la question qu'on se posait souvent entre nous.
Oui, parce que ça vous demandait beaucoup de travail. C'était très contraignant.
Il y avait des secteurs où, visiblement, certains trouvaient des résultats. C'était notamment la vigne, le fruit. Oui. Les taux de sucre dans les fruits avaient l'air supérieurs à ceux de l'agriculture, même biologique, normale. Voilà, on avait des petits indices comme ça, mais pour être sûr d'un véritable résultat, il n'y avait rien de si sûr.
Il n'y avait rien de si sûr. Alors, Autre moyen qui est mis en avant par la biodynamie, ce sont les êtres élémentaires. Dans un article publié en 2021, le magazine Famille Chrétienne a fait part d'une note technique adressée aux viticulteurs bio et publiée par la région des Pays de la Loire en 2017. Elle recommande de s'adresser comme à une personne, à des êtres élémentaires pour être notamment protégés du gel. Père Jean-Christophe Thibault, qui sont ces êtres élémentaires ?
Alors, ça fait partie, si vous voulez, de toute la pensée, vous voyez, ésotérique de Steiner. C'est pas le plus important, hein, c'est presque accessoire.
C'est anecdotique.
C'est presque anecdotique, hein, il en parle, vous savez, donc il a jamais écrit de livre, hein, sur la biodynamie, mais il a fait des conférences, hein, une série de conférences. Lui, on pourrait dire que ce qui est essentiel, c'est ce dont on vient de parler, à savoir ce qu'on pourrait appeler de la cosmobiologie, c'est-à-dire c'est les influences que pourraient avoir les astres, mais attention, hein, soyons bien clairs, jamais Steiner ne dit que les astres ont une influence directe, matérielle, sur les plantes.
Donc là, on ne parle pas de la Lune qui...
On est dans de l'ordre analogique.
Oui, c'est ça. On ne parle pas de la Lune qui influence
les marées. C'est de l'ordre spirituel. Voilà. Et la Lune, il n'en parle quasiment pas, puisque c'est une des étapes qu'il a pu avoir. Alors, la Lune, c'est là, c'est le moment où le corps éthérique s'est fondé. Enfin, je ne vais pas réentrer dans les détails, peu importe. Mais vous voyez, par exemple, la notion des calendriers de semis avec le calendrier lunaire, ce n'est absolument pas Steiner. C'est Maria Thune, hein, c'est en 1963, qui a introduit ça dans la biodynamie. Et puis, c'est devenu presque mis en avant, mais c'était un apport très tardif et qui n'a rien à voir avec la pensée de Steiner.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Père Jean-Christophe Thibault, en quoi cette référence au calendrier lunaire et à l'influence des astres sur les cultures, ça vient à l'encontre de la foi catholique ?
Oh, c'est parce que je n'ai pas parlé de ça. Hein. D'abord, c'est une croyance. Je me suis renseigné auprès des agronomes, etc. Il semblerait pas. Il y a rien contre, si vous voulez, la pensée chrétienne. Hein. C'est pas à ce niveau-là. Autant Steiner, vous avez bien compris qu'il s'agit de toute une pensée, en particulier réincarnationniste, où les choses se sont mises en place petit à petit. Donc l'être humain étant le seul qui est à la fois du Saturne, de la Lune, du Soleil, de ces différentes étapes en lui. Je passe les techniques parce que c'est compliqué et puis finalement pas très intéressant. L'influence directe de la Lune sur les... Là, on est dans... C'est à la science de répondre à ces questions-là. Il n'y a aucune pensée ésotérique par derrière. Maintenant, ce n'est pas forcément prouvé, parce que ça a un effet sur les marées, ça on sait, mais sur... Enfin, je ne vais pas trop développer les aspects scientifiques, mais c'est sur des très grandes quantités d'eau. Il est peu probable qu'il y ait un grand effet de la Lune à si court terme sur des toutes petites masses dans lesquelles il y a de l'eau. Mais ça c'est aux scientifiques de répondre, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, on n'est pas dans du spirituel.
D'accord.
Mais alors... soyons bien clairs, je répète encore, hein, toute l'ambiguïté qu'il y a avec l'agriculture biodynamique, c'est qu'on ne rappelle pas assez qu'il ne s'agit pas d'un effet, les préparats dont on a parlé, doivent se charger, alors pourquoi dans des cornes de vache, hein, parce que c'est essentiellement des bouses de vache, parce que la bouse est un concentré à l'intérieur de la vache, parce que
bon
les
engrais.
Cornes reflètent de l'intérier, contrairement à la vessie de serre, qui au contraire se tourne vers l'extérieur. Et il faut, si vous voulez, puiser, non pas des forces matérielles, mais des forces spirituelles, hein, qu'il appelle les forces terrestres et les forces cosmiques. Mais on est dans du spirituel, on n'est pas dans du matériel.
D'accord. Et à propos de spirituel, quand on lit le cahier des charges de Déméter, donc un des labels de cette agriculture biodynamique, on lit que l'agriculture biodynamique est une sorte de démarche bio assortie d'une démarche spirituelle. Et donc, c'est là que ça pose problème, en fait.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, par rapport aux autres labels bio, qui sont des labels techniques, on va dire, hein, il y a 36... Là, et c'est ça qui attire aussi un certain nombre, par exemple, de chrétiens. Moi, je connais un certain nombre de catholiques qui se retrouvent, ont l'impression finalement de faire une unité entre leur foi, parce qu'on parle de Jésus, on parle de Dieu, comme disait Marie et Jean-François tout à l'heure, hein, c'est tout à fait simplement de quel Dieu parle-t-on, si vous voulez. Oui. Du respect de la nature, mais parce qu'il ne faut pas oublier que dans la pensée ésotérique Steiner, la nature est divine. Il n'y a pas de Dieu, si vous voulez. La nature est un être vivant. Au même titre qu'il y a le corps, et la ferme est aussi un être vivant. La planète est un être vivant. Et vivant et divin, vous voyez.
Oui, bon. C'est ça.
Donc il s'agit avant tout, c'est là-dessus que finalement on trompe un peu, en particulier aussi ceux qui ont une dimension spirituelle et chrétienne, parce qu'ils se disent, ah enfin, on ne nous fait pas simplement que de la technique pure et dure, mais on ouvre aussi à des dimensions spirituelles, de respect de la nature qu'on veut. Et en ce sens, on a l'impression que ça consonne avec l'encyclique du pape Laudato aussi. Oui. Il faut respecter. Simplement, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que quand le pape parle de la nature, il appelle notre sœur la terre, et non pas notre mère terre, vous voyez. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de la création. Tandis que là, l'ambiguïté, c'est que la nature devient finalement une sorte de reflet. Enfin, c'est divin. Et donc, il faut arriver à mettre en harmonie tous les éléments du divin dont nous faisons partie. Et comme il y a des éléments contraires, j'allais dire, à l'épanouissement spirituel, parce qu'il s'agit bien de ça, hein, aussi bien pour un être vivant, hein, le matérialisme, etc., mais aussi l'appauvrissement des sols, la dureté, etc., eh bien, il faut des remèdes. Et alors, on lui donne des explications. Il dit, pourquoi, à partir, on constate que l'agriculture entre dans une sorte de décadence, etc., les sols deviennent durs, etc. Lui, il accuse de la mécanisation.
Oui.
Et là-dessus, il va rencontrer finalement une certaine audience auprès de ceux dans les années 20, hein, avec tous les fondateurs de l'agriculture biologique, en disant la mécanisation à outrance, l'utilisation, les engrais, etc. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il disait par mécanisation ? Il disait simplement tout ce qui est mécanique est finalement aux mains des entités arimaniennes. Donc, vous voyez, il fait en réalité, la mécanique sont les instruments dont se servent les puissances négatives arimanes pour rendre malade la Terre. Et avec un cercle vicieux, parce que si la Terre est malade à cause de l'hypermécanisation, alors c'est pas, vous voyez, hein, c'est où il situe les choses, eh bien, ça va produire des produits, hein, des aliments qui vont empoisonner l'homme, parce qu'il va lui-même devenir finalement, en mangeant des produits de la terre, j'allais dire chargé de forces arimaniennes, et il va devenir par exemple extrêmement matérialiste. Alors il donne un exemple, je ne vais pas aller plus loin. La pomme de terre, il ne faut pas manger de pomme de terre. Pourquoi ? Parce qu'il dit, regardez dans l'histoire, c'est quand on a introduit la pomme de terre que finalement l'homme est devenu, a commencé à s'éloigner de Dieu, et puis il est devenu, et finalement, hein, vous voyez, historiquement, hein, il situe l'arrivée, et donc il dit, ben, la pomme de terre, c'est un produit qui est vraiment aux mains, j'allais dire, des forces lucifères, arimaniennes, qui finalement fait que l'homme tombe dans la matière. Il y a toujours cette idée que tout ce qui est matière, tout ça est mauvaise, et empêche l'homme de s'élever et devenir un être spirituel, qui va développer ses facultés spirituelles. Quoi, voilà.
Pour terminer...
Donc, il y a des aliments qui sont interdits. Voilà.
Et oui, c'est ça. Pour terminer, Jean-François et Marie Réveillac, une fois que vous avez arrêté finalement cette pratique de l'agrobiodynamie, est-ce que votre foi s'en est trouvée modifiée ?
J'ai pas bien entendu la question.
Est-ce que votre foi s'en est trouvée modifiée depuis l'abandon de l'agriculture biodynamique ?
Ah, depuis l'abandon, oui.
Oui. Est-ce que vous avez retrouvé finalement une certaine cohérence
disons que sur ta comme on n'est jamais vraiment rentré dans l'anthroposophie. Enfin, j'ai failli y rentrer quand je suis partie faire ma formation à Moulins pour un stit. J'ai failli rentrer, mais j'ai pas réussi. Pourtant, j'étais payée pour ça. J'ai une année de formation. J'étais payée pour faire cette formation et pour comprendre. Et en fait, au début, je me suis accrochée, j'ai essayé de comprendre. Et puis, au bout d'un moment, j'ai dit, ben non, je ne peux pas rentrer là-dedans, ce n'est pas possible, je ne peux pas, j'y arrive pas. Et du coup,
Et donc, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était une impasse et vous avez arrêté l'agriculture biodynamique et vous êtes retourné au bio, tout simplement.
Voilà, avec des méthodes plus simples.
J'invite les auditeurs qui seraient frustrés par la durée de cette émission à lire votre livre, Père Jean-Christophe Thibault, Un regard chrétien sur l'agriculture biodynamique, méthode bio ou pratique occulte, qui donne vraiment beaucoup plus de détails sur la pensée de Rudolf Steiner et puis qui explique l'anthroposophie et les fondements de cette agriculture biodynamique. Ça permet de bien comprendre ces dangers. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Jean-François et Marie Réveillac, et puis Père Jean-Christophe Thibault. Merci aussi aux techniciens de RCF Jéricho Moselle et Radio Présence Figeac qui nous ont permis de réaliser cette émission. Merci beaucoup.